Bonjour à tous. À la une, cette première étape vers la paix entre l'Iran et les États-Unis. Les deux pays ont confirmé la signature à venir d'un protocole d'accord. Ce sera vendredi à Genève. Soulagement pour le Pakistan qui négociait depuis des semaines pour y parvenir. On est en direct d'Islamabad en début de journal. Un accord dont on connaît les grandes lignes et qui prévoit la fin immédiate du conflit sur tous les fronts, y compris au Liban. Donald Trump affirme que cet accord apportera la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Le président américain qui reparlera de cette signature à venir à Évian, il se rend aujourd'hui au sommet du G7, où il sera question forcément des différentes crises géopolitiques. En marge de ce sommet, une réunion de grands patrons tente de se faire entendre et souhaite relancer l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. En Afrique du Sud, le gouvernement fait le point sur les violences xénophobes qui secouent le pays. Et puis en football, les éléphants ivoiriens démarrent leur Coupe du Monde avec une victoire 1-0 contre l'Équateur. À l'instant, la Suède bat la Tunisie 5-1. Le Japon et les Pays-Bas se quittent sur un nul de partout. Vers un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis. Les deux pays vont signer un protocole d'accord en ce sens. Ce sera vendredi à Genève. Il prévoit la fin immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Le Pakistan, qui est médiateur avec le Qatar, se réjouit forcément après des semaines de négociations où le ton est monté à plusieurs reprises. Le Pakistan, où l'on retrouve notre correspondante Ondine de Gaulle, vous êtes à Islamabad. Ondine, comment en est-on arrivé à ce protocole d'accord ?
Le médiateur pakistanais peut enfin souffler après des semaines d'intenses tractations menées aux côtés du Qatar pour tenter d'arracher un accord entre Washington et Téhéran. Jusqu'au bout, les négociations auront été marquées par les incertitudes et les rebondissements. Ce week-end encore, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif annonçait avec optimisme une signature imminente. Mais quelques heures plus tard, la diplomatie iranienne tempérait cet enthousiasme, assurant qu'aucun accord n'était sur le point d'être signé. Puis dimanche, des frappes israéliennes sur Beyrouth ont fait craindre le déraillement d'une médiation qui semblait pourtant proche d'aboutir. Finalement, dans la nuit de dimanche à lundi, les choses se sont accélérées. Selon Islamabad, le texte a été finalisé et une date a même été avancée pour la signature vendredi en Suisse. Le premier ministre pakistanais regarde déjà vers la suite. Selon lui, les médiateurs doivent désormais faciliter une série de rencontres préparatoires prévues cette semaine pour poser les bases des discussions techniques à venir. À Islamabad, c'est donc d'abord le soulagement d'avoir obtenu une avancée concrète, mais un soulagement teinté d'optimisme prudent, alors que tous espèrent qu'aucun incident de dernière minute ne viendra compromettre cette trêve.
Ondine de Gaulle en direct d'Islamabad pour RFI. C'est donc une première étape vers la paix dans la région avec cette signature prévue vendredi en Suisse à Genève. Le vice-président américain J.D. Vance sera présent. La participation de Donald Trump est possible, mais le plus dur commence donc avec ces négociations prévues sur 60 jours. Abla Jounaidi, les points de contentieux ne manquent pas.
Oui, si le texte officiel de l'accord n'a pas encore été dévoilé. Les thèmes sont connus. En effet, les discussions historiques qui sont censées débuter cette semaine devront aborder la question du nucléaire iranien. D'abord, d'après le vice-président américain que vous venez de citer, l'Iran, je cite, ne disposera jamais de l'arme nucléaire. Il ne cherchera ni à en acquérir, ni à en acheter une, a-t-il dit hier soir. Et ce n'est qu'en fonction du respect de ses engagements en la matière qu'interviendrait progressivement la levée des sanctions visant l'Iran, autre thème majeur des discussions. Les médiateurs annoncent, comme vous l'avez dit, une série de réunions cette semaine pour mettre en place les bases de ces pourparlers techniques. Mais compte tenu des enjeux, une question de survie pour le régime, en particulier le corps des gardiens de la Révolution, les négociations promettent d'être longues. Concernant la réouverture du détroit d'Hormuz, elle n'interviendrait qu'à l'issue de la signature de l'accord vendredi prochain en Suisse. Et encore, les Iraniens n'entendent pas céder ainsi ce qui s'est avéré un formidable outil stratégique entre leurs mains. À Téhéran, on évoque toujours aujourd'hui le maintien de la perception de droit sur les passages des navires.
Précision signée Abla Jounaidi. Et après l'annonce donc de la signature de ce protocole d'accord, les cours du pétrole plongent de 5%. On reparle de cette signature à venir dans nos éditions spéciales ce matin sur RFI avec Andréane Mellard. Première édition spéciale juste après le journal de 5h, temps universel. Au moment où l'Iran et les États-Unis s'orientent vers la paix, la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine. Au moins 9 morts cette nuit dans plusieurs grandes villes. Des symboles culturels ont aussi été visés. À Kiev, un joyau orthodoxe, la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes, est en feu, tout comme le musée d'art de Kharkiv dans l'Est. La Russie, elle, déplore 3 morts dans une attaque ukrainienne à Toula, à 200 km au sud de Moscou. Il sera forcément question de la guerre en Ukraine, de la situation en Iran au sommet du G7. Il s'ouvre ce soir à Évian, à la frontière suisse. Selon le président français, les dirigeants présents évoqueront la réouverture du détroit d'Ormuz dans la durée. Les différentes crises géopolitiques, notamment la fermeture de ce détroit, ont un lourd impact sur l'économie mondiale. Le B7 va demander au G7 de remettre de l'ordre, de la stabilité. Le B7, c'est l'organisation patronale qui se réunit chaque année en parallèle du sommet. Et parmi leurs recommandations, les patrons des patrons voudraient relancer l'Organisation mondiale du commerce, Aurélien Devernois.
Flambée des droits de douane, subventions publiques massives, les règles du commerce international vacillent, tout comme l'institution chargée de les faire appliquer. Or, le rôle de l'OMC reste central, selon Suzanne Clark, patronne des chambres de commerce des États-Unis.
80% du commerce international se fait selon les règles de l'OMC et on ne devrait pas reculer là-dessus.
Qui regrette certaines décisions de son pays, contraires aux règles de l'organisation.
Les chambres de commerce américaines soutiennent une partie de l'agenda économique de Donald Trump, mais nous sommes pour la liberté de commerce et nous n'approuvons pas la généralisation des tarifs douaniers.
Les États-Unis ont toutefois envoyé des signes d'apaisement en réglant par exemple leur contribution en retard à l'OMC. Washington aimerait en effet renégocier les règles sur le commerce électronique ou le système de décision au sein de l'organisation. Des positions que partage le B7, même si le patron des patrons français, Patrick Martin, sait que cela prendra du temps.
Je ne sais pas si vous avez en tête le temps qu'il a fallu pour aboutir aux précédents accords GATT, etc., etc. Je pense que c'est 20 ou 30 ans à chaque fois. Alors là, on est un peu dans l'urgence.
En attendant, le B7 est prêt à se contenter d'accords bilatéraux de libre-échange à condition que leurs règles ne soient pas constamment remises en cause. Message envoyé aux dirigeants du G7.
Aurélien Devernois. Il y a tout juste un mois, le 15 mai, la République démocratique du Congo déclarait la 17e épidémie d'Ebola de son histoire. Depuis, le virus poursuit sa progression. Le dernier bilan du gouvernement fait état de 782 cas avérés, dont 181 décès. Les données montrent que l'épidémie reste circonscrite à trois provinces de l'Est, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. La RDC, où le parti présidentiel répond à l'opposition qui dénonce la répression de sa marche. C'était vendredi, la coalition C64 protestait contre le projet de réforme constitutionnelle. Hier, l'UDPS, donc le parti présidentiel, a accusé l'opposition de ne pas avoir eu l'intention de se rassembler pacifiquement, mais d'avoir prévu d'incendier le palais du peuple pour créer le chaos. En Afrique du Sud, une vague de violences xénophobes secoue le pays depuis plusieurs semaines avec des manifestations pour réclamer le départ des étrangers illégaux avant le 30 juin. Au moins deux Mozambicains ont été déjà tués. Plusieurs pays comme le Ghana ou le Nigeria organisent des rapatriements. Le gouvernement sud-africain, lui, poursuit sa politique anti-immigration. La ministre de la Justice, Mamoloko Kubayi, présidente du comité interministériel sur la migration, s'est exprimée hier. Elle a surtout tenu à rassurer pour éviter que les choses ne dégénèrent le 30 juin.
Nous tenons à rassurer tous les Sud-Africains. Le gouvernement maîtrise parfaitement la situation et gère activement le problème de l'immigration clandestine. L'autorité de gestion des frontières a mis au point des technologies de pointe telles que des drones et des caméras thermiques. À la suite du discours du président dimanche dernier, une campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption a été lancée afin de s'attaquer de manière efficace aux problèmes de corruption aux frontières. Nous tenons également à rappeler que les droits constitutionnels s'accompagnent d'obligations et de responsabilités. L'une d'entre elles consiste à manifester pacifiquement et à éviter la violence et l'anarchie dans l'exercice de ces droits. Nous avons constaté avec inquiétude que certains citoyens s'obstinent à procéder à des contrôles d'identité et à d'autres mesures de contrôle de l'immigration. Ces agissements sont illégaux et doivent cesser immédiatement. Toute marche ou manifestation prévue doit se dérouler dans le respect de la loi.
La ministre de la Justice sud-africaine, Mamoloko Kubayi. En Côte d'Ivoire, c'est le début aujourd'hui des épreuves du bac, un examen dans des conditions difficiles pour des centaines d'élèves de terminale d'Abidjan, ceux des quartiers récemment démolis. On écoutera leurs inquiétudes dans nos prochaines éditions. Les élèves français planchent aussi à partir d'aujourd'hui pour le bac. Ça commence ce matin avec l'épreuve de philosophie. Mais la hausse des températures prévues cette semaine et qui vont dépasser les 35 degrés va compliquer compliquer encore un peu plus les choses pour les élèves comme pour les professeurs qui feront passer des oraux. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, syndicat majoritaire des enseignants du secondaire, exprime l'inquiétude du corps enseignant.
Oui, on reste inquiet avec la perspective d'une nouvelle vague de chaleur là dans les prochains jours dans l'Hexagone. On sait qu'il va y avoir des examens, alors des épreuves du baccalauréat qui vont se dérouler essentiellement le matin. Les épreuves du brevet devraient aussi un peu plus tard, à la fin du mois de juin, se dérouler le matin, même s'il y aura une épreuve en début d'après-midi. Mais on a toujours de très fortes inquiétudes, parce que même si ces épreuves se déroulent le matin, on sait que le bâti scolaire n'est pas suffisamment adapté et qu'on risque quand même d'avoir des salles où il va faire très chaud dès 10h ou 11h du matin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des épreuves orales. Cette semaine va commencer l'oral de français. Et puis, il y aura ensuite le grand oral. Et là, ce sont des collègues qui restent toute la journée dans des salles surchauffées pour faire passer des élèves. Et tout ça reste extrêmement compliqué, voire parfois dangereux, en période de canicule. Il faut vraiment engager, sans plus attendre, la rénovation du bâti scolaire. Sinon, tous les ans, on sera à la merci d'une vague de chaleur ou de la canicule.
Sophie Vénétité du SNES FSU avec Aram Beng. Et hier, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'à l'avenir, il ne souhaitait plus qu'un examen se déroule les après-midi en raison du réchauffement climatique. En football, la Côte d'Ivoire réussit son entrée en lice à la Coupe du Monde avec une victoire 1-0 contre l'Équateur. Les Pays-Bas, eux, ont été tenus en échec par le Japon, match nul de partout. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman reste tout de même optimiste sur la suite et sur la performance de son équipe.
Quand vous menez 2 fois au score, c'est évidemment décevant, même si les deux équipes ont eu leur moment. J'ai trouvé que c'était un excellent match face à une équipe qui nous a mis la pression. On a quand même marqué 2 buts. C'est dommage qu'on ait concédé l'égalisation en toute fin de rencontre sur corner. 2 partout, c'est assez frustrant. On va devoir s'en contenter. Mais le Japon est une très bonne équipe. On l'a vu dans ce match. On va se servir de tout ça pour la suite. J'ai aussi vu beaucoup de choses positives.
Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman. Dans les autres matchs, la Suède vient d'écraser la Tunisie 5-1. L'Allemagne est encore plus sévère avec sa victoire 7-1 contre Curaçao, cette petite île caribéenne qui fait ses premiers pas dans la compétition. RFI, 6h12, à Paris, on poursuit notre tour du monde de l'actualité. On sera en Russie, qui intensifie ses frappes contre l'Ukraine. La Russie, où le parti d'opposition Yabloko est le seul à réclamer un cessez-le-feu immédiat. Ses membres font l'objet de pressions et préparent difficilement des élections locales. En Italie, un projet pharaonique éclaboussé par une affaire de corruption. Le projet de pont suspendu entre la Sicile et le reste du pays. Et ce projet suscitait déjà une forte opposition en raison de son coût démesuré. Notre invité culture ce matin est cartophile, c'est-à-dire qu'il collectionne les cartes postales. Il en a des milliers et plus qu'une passion, c'est tout un pan d'histoire qu'il expose en ce moment à Venise. À suivre également un extrait de Priorité Santé qui vous emmènera ce matin au Cameroun avec ses initiatives pour lutter contre la malnutrition à l'occasion de la journée mondiale de la faim. On fera un tour dans la playlist de nos programmateurs qui vous ont choisi ce matin Aya Nakamura pour vous réveiller. Un long processus démarre aujourd'hui de premières négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Quelques heures avant la reprise de ces discussions, la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine, au moins 9 morts cette nuit et plusieurs symboles culturels visés. Un joyau orthodoxe, la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes est en feu à Kharkiv. Le musée des Beaux-Arts a été pris pour cible. La Russie, elle, signale une attaque ukrainienne, 3 morts déplorés à Toula, à 200 km au sud de Moscou. Dans le pays, la Russie, donc un seul parti, réclame un cessez-le-feu immédiat avec l'Ukraine, le parti Yabloko. Il se prépare à des élections locales prévues pour septembre, mais rien ne dit qu'il sera autorisé à concourir et ses membres font déjà l'objet de pressions. À leur demande, aucun nom ne sera donné dans ce reportage d'Anissa El-Jabri.
Dans une des pièces, quelques affiches, du papier, des stylos sur des tables, les dernières traces d'une soirée dédiée à l'écriture de lettres aux prisonniers politiques. Dans un bureau, un calendrier avec la photo d'un visage mince au regard aigu, celui de Boris Vichnievski, ancien responsable très connu du parti désigné agent de l'étranger en mars 2024, sous le cliché « ces quelques mots ».
Il est écrit « je reviendrai ». C'est ce qu'il nous a dit quand il a fait son discours de départ. Malheureusement, maintenant, il vit à l'étranger. On espère que c'est temporaire, qu'il reviendra vraiment.
Depuis le départ de cette figure locale et singulièrement depuis le début de la préparation des élections, le climat s'est...
secrets and here is mine, so let it be known. We have been through hell and high tide, I think I can rely on you. And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown. But still lovely, in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands. Well, I'm still fond of you. Ah ha ha. So what difference does it make? Does it make? Ooh, it makes none. But now you have gone, and your prejudice won't keep you warm tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you. Ah ha ha. But no more apologies. Ooh. No more apologies.
Si vous avez fait le 1, parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2, parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultat sportif, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip. Au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.
Ce que je crache à le bout de mon âme, sauvé depuis que je fous dans mon art, noyé dans l'océan fou de mon drame, racine nourrissant les bourgeons de mon arbre. Oui, je respire des vapeurs bénéfiques, calme et sonore loin de l'or et des filles. Facile et chaude, disons que mes récits parlent plus au prolo qu'aux buveurs des lessives. Les trônes, je leur lèche et ma vie, je les empaille dans un fond d'arrière-cour entre joie et